Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Témoins. Et le témoin d'aujourd'hui, c'est Madame Françoise Michaud qui va se présenter elle-même parce que je l'ai invitée à plusieurs titres. Bonjour Françoise, merci d'être à Radio Grand Ciel. Eh bien, dites-nous un peu parce que vous êtes à la CI déjà.
Oui, alors d'abord bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, qui suis-je? D'abord, je suis médecin. À la retraite depuis pas longtemps, au mois d'août. Et j'ai été toute ma carrière, 40 ans, gynécologue médicale. Effectivement engagée dans la CI depuis 45 ans. ACI, c'est-à-dire Action catholique des milieux indépendants, où on regarde, on discerne la vie à la lumière de l'Évangile, avec l'idée de nous transformer. Et donc ça a été fil rouge de ma vie, de mon couple. Et donc on en est forcément imprégné.
Oui, parce que aussi, vous avez été maman, vous avez élevé des enfants, donc vous connaissez les choses à la fois professionnellement, mais pour les avoir vécues.
Complètement, voilà, tout à fait. Maman, maintenant, bonne maman. Ce que je voulais dire au niveau formation, la CI m'a marquée, mais auparavant, j'avais été formée aussi par les jésuites, où j'avais été pendant mes 10 années d'études au centre Laennec des jésuites, où j'ai connu mon mari.
Et où on travaille beaucoup sur la réflexion médicale.
Sur la réflexion médicale, sur le discernement, beaucoup sur le discernement, pas apprendre des choses toutes faites en matière d'éthique, on va dire. Et puis également, par mon parcours personnel, familial, je me suis rapprochée aussi du Carmel. C'est important pour moi de découvrir que j'étais aimée de Dieu et d'aimer en retour. Et puis, si je veux finir de me présenter, je dirais que depuis 4 ans, voilà, qu'il y a quelque chose qui est très fort pour moi. Je suis très habitée par la foi en la résurrection de mon mari, qui nous a quittés il y a 4 ans.
Donc, ça, ce sont des éléments très importants de votre témoignage personnel.
Voilà. Exactement.
Là, on n'est plus simplement dans le médecin, mais c'est aussi le parcours d'une femme croyante dans son métier, dans sa vie de couple et puis de médecin, de maman et de grand-mère.
Voilà.
Plein de choses. Qu'est-ce qui vous a amené à associer totalement et tout de suite, justement, à la fois le métier et puis la foi chrétienne? Parce que quelquefois, on dit ceci, ou bien on se dit, bon bien, je sais pas moi, il y a eu l'encyclique Humanae Vitae qui a amené quand même les chrétiens après, ils se sont dit, oui, mais on avait l'impression que l'Église ouvrait grand des portes, et puis que là, bloc, ça bloque. Et en fait, eh bien justement, vous, comment vous l'avez ressenti? Parce que comme médecin, comme, voilà, là où vous êtes.
Alors je dirais que, je ne sais pas le dire pourquoi, c'était deux choses qui m'habitaient. Mon métier, ce qui me plaisait, c'était la rencontre avec l'autre, en tant que gynécologue, de rejoindre les gens dans leur intimité. Donc dès le début, j'étais à l'hôpital, ça m'a tout de suite attirée. Ma foi, elle était ce qu'elle était, elle a grandi. Alors Humanae Vitae, parlons-en, moi je sortais de première année de médecine, j'étais fiancée. Humanae Vitae, pour nous, on l'a reçue donc à la Laennec avec les jésuites, avec, je pense, une prise de position des évêques que j'étais recherchée depuis, qui nous mettait assez en retrait d'Humanae Vitae. Donc Humanae Vitae, c'est pas quelque chose que j'ai suivi, qui m'a.
Vous avez pas ressenti le blocage? Vous
non,
avez dit
pas
non,
du
ce
tout.
Qui
pour
compte,
moi,
c'est la conscience personnelle.
Exactement. J'étais beaucoup plus formée là-dessus. Et alors j'ai eu l'impression qu'après, au fur et à mesure du temps, il y a peut-être eu Alors certains y sont restés, d'autres y sont revenus dans les nouvelles générations, très attachés à des méthodes naturelles, qui n'a jamais été mon choix. Mais que j'ai accepté les personnes qui venaient me voir, qui voulaient, j'essayais d'être très ouverte. Hein,
correspondre à leur choix.
Voilà, correspondre à leur choix, les aider dans leur choix. En général, les gens arrivaient très motivés, donc ils ne me demandaient rien de particulier. Sauf que, mon rôle, ça a été beaucoup d'accompagner les gens là où ils en étaient. Voilà.
Là où ils en étaient, et puis dans leur choix, mais en même temps, les accompagner sur le plan médical.
Et les accompagner sur le plan médical. Alors, la foi par rapport à la médecine, je dirais que je n'ai jamais affiché ma foi en tant que médecin. À l'hôpital, ça m'arrangeait bien parce qu'il y a un devoir de réserve. Et même en dehors, je ne sais pas si j'étais forcément prête à l'afficher beaucoup. Mais j'avais mon compte à moi, mais pas vraiment le partager. Enfin, pas l'afficher en tout cas.
Par exemple, quand une patiente... Alors, je vais poser des questions. Quand une patiente vous demandait la pilule, vous la donniez quand même?
Bien plus que ça, oui. Même, je vais vous dire, quand, à l'hôpital, au départ, je n'étais pas... Avant que je sois au cabinet, j'étais uniquement à l'hôpital. On m'avait amené Madame Contraception. Donc, ma thèse a été aussi face à la demande de contraception. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Alors, il y avait peut-être, pour moi, quelque chose qui était... pas forcément de l'ordre de l'Église, puisque l'Humanae Vitae ne me gênait pas, c'était par rapport à l'avortement. À savoir que pour moi, l'avortement, c'était quelque chose auquel je ne voulais pas franchir. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur la demande d'avortement. Au moment où la loi est passée, j'étais jeune thésée et je recevais toutes les personnes du département qui demandaient une IVG, ce que m'avait demandé le patron de l'époque à l'hôpital. Mais pour écouter les gens, pour les aider dans leur discernement. Et j'ai toujours refusé de pratiquer des avortements, même quand c'est devenu médical. Je me suis mis en retrait. Mais par contre, j'ai toujours tenu à écouter.
À faire de la contraception pour éviter les avortements, justement. Peut-être.
Alors, peut-être parce que c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, écouter des personnes qui venaient de demander. Voilà. Écouter leur, essayer de les remettre. Mon rôle, c'est de mettre les gens, faire grandir les gens pour qu'ils soient, que ce soit leur choix à eux. Et que, parce que, avorter parce que quelqu'un d'autre le dit, c'est pas bon, ça trotte dans la tête et tout. C'est d'essayer que les gens soient debout dans leur choix. Sans influencer leur choix.
Donc voilà une réflexion importante et je voudrais vous poser aussi la question. Lorsqu'on dit les méthodes naturelles, finalement, méthodes naturelles, quand on regarde la démographie, alors là je me réfère aux aspects sociologiques où on perçoit quand même que dès le XVIIIe siècle, alors qu'il n'y a aucun moyen de contraception connu, finalement on s'aperçoit quand même que les gens font de telle sorte que au lieu d'avoir les 5, 6 enfants ou 10 enfants par femme, on a une nette, ou en tout cas en France, on a une nette dégringolade. Donc, on sent bien quand même que, à partir du moment où le niveau de vie augmente, les gens se disent, ça n'est plus nécessaire d'avoir autant d'enfants pour assurer ma vieillesse, si j'ose dire.
Oui, sans doute, c'est vrai. Alors là, il faut remonter à loin en France.
Oui,
là.
C'est ça, voilà, 18e siècle.
Oui. Mais ceci dit, il y avait quand même beaucoup de mortalité infantile, de mort in utero, etc. Donc,
oui, c'est vrai.
Je là. Pense que c'est ça qui jouait quand même. Mais si je reviens sur les méthodes naturelles, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'on dit que c'est naturel, alors que naturellement, la femme est plus apte à vouloir des rapports, à avoir une libido plus forte au moment de l'ovulation. Donc, j'ai jamais compris pourquoi c'était naturel de faire en sorte qu'on repère cette période-là. Ça m'a toujours paru...
J'avais l'impression que c'était assez hypocrite.
Enfin, bah, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Bon. Donc, j'ai plus problème pour moi, mais ça m'a... Voilà, j'ai pas bien compris. Mais alors, si on parle actuellement sur les contraceptions, aujourd'hui, on est un pays dans le monde où on a une contraception médicale très importante, dans les pays où les contraceptions donc efficaces et les plus importantes, mais malgré tout, il y a des échecs. Et il y a toujours autant d'avortements. Donc j'avais relevé les chiffres.
C'est quand même une question.
Oui, non, mais c'est une question. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on n'accepte plus un enfant qui n'est pas programmé. Et la non-acceptation d'un enfant non programmé devient très fréquent. Et ça interroge. Parce que, par exemple, on a toujours ces chiffres-là. En 2017, j'avais trouvé, il y a eu encore 211 900 IVG pour 730 000 naissances. Et on a toujours resté avec le même chiffre d'IVG. Et les naissances, pendant longtemps, c'était plutôt autour de 800 000 par an en France. Donc, à la limite, les naissances baissent, mais pas les IVG. Donc, ça, c'est...
À quoi ça tient ? Est-ce que ça... Parce que, quelquefois, on peut se dire, bien, l'influence de l'Église diminue. Mais, en fait, puisqu'il y a toujours le même nombre d'avortements, ce n'est pas une question d'influence de l'Église.
Ben, c'est une question de... Alors, ça rejoint, et c'est ça dont j'aimerais parler, c'est ce refus de l'imprévu. C'est ce refus d'un enfant qui n'était pas prévu, ça remet trop en cause et qu'on est dans des mondes qui sont un petit peu trop ciblés, marqués. Alors là, ça rejoint ma pratique. Par exemple, en matière de contraception, bien sûr que j'ai prescrit des pilules, mais des stérilés. Et dans les contraceptions, c'est toujours important de faire reposer la question aux personnes. Est-ce que vous souhaitez toujours chercher à éviter une grossesse ou est-ce que ce serait peut-être pas l'heure de penser à avoir un enfant ? Sans compter que la fameuse horloge biologique avance. Mais c'est important que ce ne soit pas comme un fait qui va de soi. Et puis finalement, que les gens, entre guillemets, oublient d'avoir des enfants. Et puis fassent également reprendre quand même que l'enfant, bah, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse.
C'est quand même pas quelque chose qu'on prend sur un rayon de magasin. Ce n'est pas une
marchandise. Tout à fait. Ce n'est pas une marchandise. Parce qu'après, ce que l'on voit, c'est l'envers. C'est que l'envers de ces personnes qui sont tellement à tout voir programmer leurs enfants, le jour où elles ont souhaité avoir un enfant dans leur couple...
Elles sont trop vieilles, non ?
Alors, d'une part, elles risquent d'être trop vieilles, ou surtout, elles supportent pas d'attendre, parce qu'il y a eu cette maîtrise sur la vie qu'elles souhaitent aussi avoir en matière de fécondité. Et donc, le jour où on souhaite un bébé, c'est pas un bébé quand je veux. C'est pas de bébé quand je n'en veux pas. Ça, on sait faire par une pilule, par une méthode efficace... Mais par contre, l'envers n'est pas possible. Et là, il y a toute une démarche. Et moi, personnellement, j'ai vieilli au fur et à mesure de mon... Enfin, j'ai mûri, plutôt, enfin, vieilli et mûri, pour penser que c'est important d'accompagner les couples, pour les aider à chercher à être dans cette maîtrise qui rend malheureux, parce que la vie, elle est pleine d'imprévus.
Oui, et puis la vie, bon, ça n'est pas comme j'achète un paquet c'est de pâtes.
Tout à fait.
C'est autre chose.
Exactement.
Et est-ce que le fait d'être en relation avec, vous avez dit, les couples, ça m'intéresse beaucoup parce que vous avez évoqué une réflexion que vous meniez avec des couples. Alors que souvent, j'ai cru ressentir que la contraception reposait sur la femme.
Alors effectivement, pour moi, c'est important. Alors après, il faut pas juger, parce que la notion de couple, elle est, faut voir les populations qu'on peut soigner, qui sont très diverses. Hein. Donc la notion de couple, elle n'existe pas toujours, elle est très changeante. Donc faut prendre les couples comme
oui,
ils sont.
Tels
hein.
qu'ils sont. Oui,
voilà, tels qu'ils sont.
Oui, alors
mais
là,
quand
c'est...
voilà, mais quand il y a une perception d'un couple qui existe, alors après il y a aussi beaucoup de respect. Il y a eu des personnes qui tenaient à avoir une contraception sans que leur conjoint soit au courant. Je respecte aussi. Hein, mais je pense que c'est quand même une affaire à deux, si tant est que l'autre personne du couple veut bien s'y investir. Et sur la fécondité, là par contre, il faut vraiment être deux. Voilà.
Une autre question, vous accompagnez les couples dans la préparation au mariage. Alors j'imagine que là, c'est toute votre expérience et face à l'évolution, entre guillemets, des mœurs, comment les choses se passent ?
Comment les choses se passent ? Donc, j'ai commencé là à nouveau, ça doit être la cinquième fois. C'est vrai que la première fois, j'étais un petit peu étonnée parce que dans les couples, la majorité, souvent c'est la majorité sont parents. Oui, la quasi-totalité vivent déjà ensemble. On a eu jusqu'à des couples qui avaient 8 enfants qui venaient se marier, ou des personnes qui venaient se marier et qui étaient déjà ménopausées. Donc on n'est plus du tout dans le même registre que l'on pouvait imaginer il y a 50 ans de personnes qui venaient.
La petite toit blanche qui ne
savait pas blanche, ce qui voilà. Donc on est complètement
fini,
différent.
Là.
Ça c'est fini. On parle à des couples qui ont un passé, qui ont un vécu, mais qui font. Ça, je trouve que ça a toujours. Ça a du sens pour eux et c'est important de les rejoindre là où ils en sont. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les textes que l'on prépare, souvent c'est l'accueil à la vie, etc. Et on reçoit
oui,
souvent
quand
des.
Quand on a 8 enfants, là.
Bon, 8 enfants, voilà, mais même sans aller 8, il y en a qui en ont 2 et qui disent bien, la famille, elle est finie, quoi. On vient se marier, mais il n'est pas question. Donc là, c'est peut-être leur parler que. Moi, j'aime beaucoup leur parler de l'encyclique du pape ou de l'exhortation apostolique, enfin, la joie de l'amour. Maurice Laetitia, parce que dedans, il y a des très, très belles paroles qui sont c'est sur, quelle est notre fécondité de couple, à quoi on va être appelé et être ouvert. Alors, il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne prévoit pas. Donc, ça peut être la maladie des enfants, ça peut être, etc. De pas être figé dans quelque chose, sortir de cette maîtrise absolue. Dieu, il est là pour nous aider, quoi. Il envoie des épreuves et puis il nous
donc
aide pour les vivre.
L'amour réciproque, en fait.
Quand je dis que Dieu nous envoie les épreuves, je n'aime pas comme formule, je retire. Parce que je ne dirais pas qu'il nous envoie des épreuves, mais les épreuves existent.
Oui.
Et il nous aide à les surmonter.
Alors, pour finir, puisque nous sommes dans la dernière minute de l'émission, vous pouvez nous donner peut-être un petit entrefilet de Maurice Laetitia qui est si important pour vous ?
Oui, on peut. Disons que, par exemple, je peux vous lire quelques fois. Voilà, c'est dans les chapitres 4 hein, qui sont très beaux. L'amour donne toujours vie. C'est pourquoi l'amour conjugal ne s'achève pas dans le couple. Ainsi, les époux, tant qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel. L'enfant, reflet vivant de leur amour, signe permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être de père et de mère.
Voilà, donc c'est, la fécondité, voilà, c'est vraiment...
La fécondité, en sachant que le pape dit bien d'autres choses par rapport au fait où des enfants arrivent, pas forcément issus de l'amour de leurs parents. C'est déjà souvent plus compliqué.
Eh bien, merci Françoise Michaud d'être venue à Radio Grand Ciel pour cette émission Témoin. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.